Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Dominique vivant de nom en 1787 alors qu'il quittait l'Italie. Il a retrouvé sa liberté, il n'est plus ambassadeur, il est riche, libre d'aller où bon lui semble. Ce sera Venise. Seconde partie, des pyramides avec Bonaparte, au Louvre avec Napoléon. À Venise, sa réputation, son charme, son entre-gens, l'italien qu'il parle parfaitement, lui ouvre rapidement les portes de la société vénitienne. Alors qu'à Paris, l'ambiance est morose, ici, dans la Sérénissime, c'est la fête perpétuelle. Fête nautique, café littéraire, théâtre, opéra, concert, attirent une société cosmopolite, brillante et spirituelle. Denon se fait inviter dans le salon très réputé d'Elisabeth à Teotocci. On y retrouve la fine fleur des artistes résidant à Venise. Elisabetta a 28 ans, Denon 41. Elle a un mari très complaisant, pour ainsi dire inexistant, qu'il a épousé alors qu'elle avait seulement 17 ans. Elle est d'une éblouissante beauté, visage d'un ovale parfait, épaisse chevelure châtain bouclée, teint très pâle, de grands yeux, des lèvres pulpeuses et charnues. Sa silhouette, son élégance fascinent Denon. Avec ça, Elisabetta est extrêmement cultivée et parle parfaitement le français. Denon en tombe follement amoureux. Jamais encore cela ne lui était arrivé.
« Ah, Bettine, le malheureux qui est ivre cesse un moment de l'être. Quelques caresses passagères ne m'empêchent pas de voir que je ne dois rien à l'amour, que vous n'avez pour moi rien de ce qui caractérise une passion. Adieu. Je vais me coucher, dévoré d'un mal dont je ne guérirai point, sans espoir de mon côté, sans espoir du vôtre, avec une hydre à combattre et sans armes pour l'attaquer. »
Denon quitte un temps Venise pour Bologne, où il séjourne 5 mois et devient le chevalier servant d'une charmante italienne, un rôle tout à fait platonique. En juillet 1789, des nouvelles inquiétantes lui arrivent de Paris. Une révolution a eu lieu et l'on commence à montrer du doigt les émigrés. S'il veut éviter la confiscation de ses biens bourguignons, il faudrait qu'il s'y rende en personne. Mais il temporise, continue à mener une vie d'autant plus paradisiaque qu'entre-temps, Bettine est devenue sa maîtresse. Il savoure encore quelques années italiennes, rencontre à Venise en 1792 Madame Viger Lebrun, peintre de la reine Marie-Antoinette, qui lui raconte la situation en France. En juillet 1793, soupçonné à tort par des jaloux d'y vouloir porter la révolution, il est exilé de Venise. À peine l'a-t-il quitté qu'il écrit des lettres par dizaines à Bettine.
« Ah, mon ami, tu m'aimeras toujours, 5 ans, 45, car je n'existe que depuis que je t'aime. »
Il se replie à Bologne, puis à Florence, mais sans Bettine. De loin, il envisage de l'épouser car elle a amorcé sa séparation d'avec son mari. Dans ses lettres, il l'appelle « ma femme ».«
Pour moi, je t'épouse tous les jours, car je te jure à chaque instant foi, tendresse, constance, fidélité. Jamais on n'a tant appartenu à quelqu'un que je ne t'appartiens. »
Denon apprend alors qu'il figure à Paris sur une liste de suspects. Il faut qu'il rentre en France pour se justifier et sauver ses biens. Dès ce moment, il décide de renoncer à sa particule. Désormais, il ne se nommera plus Denon, mais Denon en un seul mot. Il abandonne aussi la perruque, stigmate d'une époque révolue. Avec une témérité folle, il débarque à Paris en pleine terreur, à l'époque où une simple dénonciation peut conduire à la guillotine. Il rencontre le peintre David, qui à ce moment-là est tout puissant. Son entremise permet à Denon de disparaître de la liste noire. Il rentre en possession de ses biens, s'installe d'abord près du Louvre, puis rue de la Salpêtrière, où il tente de se faire oublier, de passer entre les gouttes. Sur les instructions de David, il croise brièvement Robespierre une nuit au Louvre, juste avant la chute de celui-ci. Il est mort de peur. Mais par bonheur, Robespierre ne l'interroge que sur les futurs costumes de la garde nationale dont David a demandé à Denon la réalisation. Sous le directoire, il grave à tour de bras dans l'atelier qui lui a été attribué au musée du Louvre, copie, donne quelques cours, vivote. Il doit vendre ses estampes, ses livres précieux, ses miniatures. Il se met à fréquenter Joséphine de Beauharnais, devenue Madame Bonaparte. Amie et protectrice des arts, elle constitue une collection de peintures, de gravures qui lui ont fait connaître et s'attacher deux noms qu'elle a vraisemblablement aperçus au Louvre. Il lui rend donc visite en son hôtel particulier de la rue Chantraine, dans le quartier de la Chaussée-d'Antin. Après avoir charmé Joséphine par sa conversation, il finit par croiser un jour Bonaparte lors de quelques réunions mondaines. Bonaparte lui sert un verre de limonade et, de fil en aiguille, eh bien ce verre débouche sur une conversation passionnante pour les deux hommes. C'est l'époque où se prépare l'expédition en Égypte. Il s'agit de contrer l'Angleterre et de préparer si possible une offensive plus lointaine en Inde. Bonaparte reçoit du directoire le 5 mars 1798 l'ordre d'en entreprendre la conquête. Or, Denon rêve depuis toujours d'un voyage en Égypte. Alors il fait des pieds et des mains pour faire partie de cette aventure dont tout indique qu'elle va être éprouvante et dangereuse. Comme il n'a aucune fonction officielle justifiant de sa désignation, eh bien c'est sans doute Joséphine qui s'entremet pour qu'il puisse partir. Alors que la plupart des jeunes savants associés au corps expéditionnaire français empruntent des berlines capitonnées, Denon enfourche un cheval pour rejoindre bride abattue l'ardent général Bonaparte en partance pour l'Égypte. Le 14 mai 1798, il embarque sur la Junon, qui prend la tête de l'escadre française. 65 navires de guerre, 280 transports de troupes, 38 000 hommes, 1 200 chevaux, 200 savants. Denon va vivre pleinement cette épopée, entre passion et danger. Il frôlera la mort à plusieurs reprises. Mais qu'importe, même quinquagénaire, un aventurier ne se refait pas. Grâce à l'expédition d'Égypte, Denon est le premier à découvrir, analyser, assimiler, reproduire l'art de l'Égypte antique. C'est à lui qu'incombe le devoir de le faire connaître au public savant de Paris et d'Europe. Dans ce but, il écrit et dessine constamment et publiera son retour en France après 3 ans de travail, voyage dans la basse et haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte.
Dans cette affaire, Vivant est à la fois témoin, ami de quelques acteurs de premier plan comme le général Desaix, conteur, correspondant de guerre, dessinateur, naturaliste, archéologue, ethnologue, érudit, simple soldat, comploteur politique et finalement poète.
Le livre connaît un véritable triomphe. Le 28 Brumaire en 11, 19 novembre 1802, Dominique Vivant Denon est nommé officiellement directeur général des musées. Musée du Louvre, Musée des Monuments Français, Musée de l'École Française de Versailles, Galerie des Palais du Gouvernement, Monnaies et Médailles, Gravures, Pierres Fines, Mosaïques et surtout Acquisition et Transport des Objets d'Art de l'État. Il est ministre des Beaux-Arts et même plus que ça. Il a sous son contrôle les peintres, les sculpteurs, les graveurs, les tapissiers, les porcelaines. Jamais personne avant lui n'a eu un tel pouvoir sur les beaux-arts. Celui que la grande armée appellera bientôt l'huissier-priseur de l'Europe va diriger toute une équipe, un bataillon de conquête. Il parcourt l'Europe à la suite des armées napoléoniennes victorieuses pour sélectionner dans les villes conquises les chefs-d'œuvre destinés à être déposés au musée parisien.
La République française, par sa force, la supériorité de ses lumières et de ses artistes, est le seul pays au monde qui puisse donner un asile inviolable à ses chefs-d'œuvre.
On commence par déménager quelques antiquités du Vatican, comme l'Apollon du Belvédère, qui sera bientôt rejoint par la Vénus de Médicis et bien d'autres. Le Louvre est alors un endroit mal entretenu, squatté par des artistes qui y logent, y font leur cuisine. Ça ne ressemble pas du tout à un palais censé rassembler toutes les beautés de la terre, et on ne visite pas. Or, Napoléon tient beaucoup à ce que le public ait accès au musée. Ce sera le samedi et le dimanche de 14 à 16 heures. C'est peu, mais avant, ce n'était pas du tout. Les cargaisons venant de l'étranger suivent les opérations militaires. Des caisses remplies de merveilles arrivent constamment. C'est la razzia. Parfois, on achète, le plus souvent, on enlève. En 1806-1807, par exemple, en Prusse, sont emportées 278 toiles, des ivoires, des bronzes, des objets d'art indiens et chinois, des sculptures en bois, des gravures, dessins, médailles, etc. Au fur et à mesure qu'arrivent les œuvres, on organise les salles du Louvre en disposant harmonieusement écoles françaises, italiennes, allemandes, flamandes, hollandaises. L'Espagne est trop absente ? Qu'à cela ne tienne ! Vivant de nom part pour Madrid, où la campagne d'Espagne bat son plein. Il manque d'ailleurs s'y faire tuer. Mais il profite de ce voyage à la recherche d'œuvres d'art pour replacer lui-même dans leur tombeau, à Burgos, les restes du Cid et de Chimène. Quelque temps plus tard, en Italie, Denon se livre à un coup de maître, convaincu que certains peintres à l'importance majeure ont été jusqu'à présent négligés, comme Fra Angelico ou Giotto. Il rapporte nombre de leurs œuvres en France. Par ailleurs, Denon fait des commandes à des artistes chargés d'assurer la propagande de l'Empire. David, peintre officiel payé très cher, Gros ou Gérard. Tous réalisent notamment des scènes de bataille, supposées illustrer la légende dorée de l'Empire. Chateaubriand dira cruellement
« Ce n'était pas tout de mentir aux oreilles, il fallait mentir aux yeux. »
Après les Cent Jours et l'effondrement de l'Empire en 1815, le roi Louis XVIII laisse Denon à la tête du musée du Louvre. Mais quand vient l'heure de se retirer, à quoi va se consacrer cet homme qui n'a jamais cessé de voyager? Eh bien, chez lui, dans son appartement du quai Voltaire, il classe, il range, il retrouve sa passion de dessiner, de graver, et c'est là sans doute qu'il s'occupe de garnir son extraordinaire reliquaire. Denon est littéralement fasciné par les restes mortuaires des personnages illustres, conquérants, écrivains ou amoureux célèbres, peu lui importe, dès lors qu'il y a un certain souffle, quelque chose de sublime, d'homérique dans l'histoire personnelle de l'individu représenté par sa relique. Dans son reliquaire, son trophée, il lui faut du génie, de la grandeur, du tapage, des cris, des larmes, des héros éclaboussés de sang, auréolés par la tragédie. Alors, année après année, relique après relique. Il accumule ses restes, soit au cours de ses voyages, soit expédiés par ses subalternes qui le savent collectionneur. Chaque fois qu'il en reçoit une nouvelle, il la dépose fébrilement dans la logette destinée à l'accueillir. Ce reliquaire est son miroir, un miroir des vanités sans doute, Mais Denon a vécu une existence suffisamment riche et exaltante pour être digne de le regarder en face sans avoir à baisser les yeux. Le contenu de cet objet est tout à la fois monstrueux et extraordinairement romanesque. Voici ce reliquaire tel qu'il est décrit dans le tome 1 du catalogue de la collection Denon, édité à l'occasion de la vente posthume de ses biens en 1826.
Numéro 646. Cuivre doré. Un reliquaire de forme hexagone et de travail gothique. Les deux faces principales de ce reliquaire sont divisées chacune en 6 compartiments et contiennent les objets suivants. Fragments d'os d'Ucide et de Chimène, fragments d'os d'Héloïse et Abélard, cheveux d'Agnès Sorel et d'Inès de Castro, partie de la moustache d'Henri IV, fragments du linceul de Turenne, fragments d'os de Molière et de La Fontaine, cheveux du général Dessay, autographe de Napoléon, mèche de ses cheveux, morceaux de la chemise ensanglantée qu'il portait le jour de sa mort, feuilles de saule pleureur cueillies sur sa tombe à Sainte-Hélène.
Un bien étrange personnage que ce vivant Denon. Alors qu'il a fait de sa vie une aventure prodigieuse, il n'a pas laissé de mémoire. Le 26 avril 1825, un jour froid, il sort pour une vente de tableaux. En rentrant, lui qui n'est jamais malade, ne se sent pas bien. Il a de la fièvre. C'est une congestion pulmonaire. Le lendemain, il meurt, en emportant dans la tombe les secrets d'une existence aussi mystérieuse que tumultueuse. L'inventaire de sa collection personnelle d'œuvres d'art fera 3 tomes de près de 300 pages chacun. Au fait, le trophée de sa collection, cet extraordinaire objet où cohabitent les restes de Molière, La Fontaine et Voltaire, le Cid et Chimène, Napoléon, Henri IV et autres illustres personnages. Eh bien, cet objet est visible tous les jours, de 10h à 18h, au musée de l'hôtel Bertrand, à Châteauroux. C'est la fin de ce double épisode consacré à Dominique Vivant Denon, fondateur du musée du Louvre. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du texte que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Xavier Joly. Si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.